fiancés, chapitre 34. Il fallait pénétrer dans la ville. Renzo avait entendu dire vaguement qu'il existait des ordres très sévères pour ne laisser entrer personne sans la bolletta de santé. Mais que, dans le fait, l'entrée n'en était nullement malaisée pour qui savait s'y prendre et saisir le moment. C'était en effet ainsi, et sans parler des causes générales qui faisaient que dans ce temps-là, tout ordre quelconque était peu exécuté, sans parler des causes particulières qui rendaient l'exécution rigoureuse de celui-ci si difficile, Milan était désormais dans une situation telle que l'on ne voit guère à quelle fin et contre quoi il eût été à propos d'y exercer des mesures de préservation. Et ceux qui ne craignaient pas d'y venir paraissaient bien plutôt oublier le soin de leur santé qui apportait du danger pour celle des autres. D'après ces notions, le projet de Renzo était de tenter de s'introduire par la première porte près de laquelle il arriverait et, s'il y rencontrait quelque obstacle, de suivre les murs en dehors jusqu'à ce qu'il en trouvât une autre par où l'accès fût plus facile. Car Dieu sait combien de portes il s'imaginait que Milan devait avoir. Étant donc arrivé sous les remparts, il s'arrêta à regarder autour de lui comme un homme qui, ne sachant quelle est sa route, semble s'adresser à tout pour s'en enquérir. Mais à droite et à gauche, il ne voyait que deux bouts d'un chemin tortueux, tout près des remparts, et d'aucun côté nul indice d'être vivant, si ce n'est que du haut de l'une des plateformes s'élevait une colonne de fumée noire qui se développait ensuite en large tourbillon et finissait par se perdre dans une atmosphère grise et immobile. C'étaient des vêtements, des lits et autres objets infectés que l'on brûlait et de semblables feux se faisaient continuellement, non seulement en ce lieu, mais sur plusieurs autres points des remparts. Le temps était bas, l'air pesant, le ciel partout voilé d'une vapeur brumeuse, uniforme, inerte, qui semblait refuser le soleil sans promettre la pluie. La campagne des environs, en partie sans culture, se montrait tout entière desséchée par les ardeurs de la saison. Toute verdure était fanée, et nulle goutte de rosée matinale n'humectait les feuilles flétries sur l'arbre dont une à une elles se détachaient. Cette tristesse de la nature, et par surcroît, cette solitude, ce silence tout auprès d'une grande cité, ajoutait une sorte de terreur à l'inquiétude de Renzo, et rendait plus sombre toutes ses pensées. Après avoir ainsi pendant quelques moments suspendu sa marche, il prit la droite à l'aventure, allant, sans le savoir, vers la porte neuve qu'il ne pouvait voir, quoiqu'il en fût tout près, à cause d'un bastion qui la lui cachait. Lorsqu'il eut fait quelques pas, il commença à entendre un bruit de sonnette qui cessait et reprenait par intervalles, et puis quelques voix d'hommes. Il avança et, ayant tourné l'angle du bastion, il vit une petite cahute en bois et, sur la porte, un soldat en sentinelle qui s'appuyait négligemment et d'un air fatigué sur son mousquet. Derrière était une palissade, et derrière celle-ci la porte, c'est-à-dire deux pans de mur formant piliers, avec un auvent par-dessus pour garantir les battants, lesquels étaient tout ouverts, ainsi que la barrière de la palissade. Mais sur le passage même se trouvait un fâcheux obstacle, une civière sur laquelle deux monatti arrangeaient un malheureux homme pour l'emporter. C'était le chef du poste des gabelles, chez qui la peste s'était déclarée peu de moments auparavant. Renzo s'arrêta où il était, attendant la fin de l'opération. Lorsque le convoi fut parti, personne ne paraissant pour refermer la barrière, il jugea que c'était le moment et se hâta de s'avancer. Mais la sentinelle, d'un ton brusque, lui cria « Hola !» Renzo s'arrêta de nouveau et, regardant son homme de manière à se faire comprendre, il tira de sa poche un demi-ducat et le lui montra. L'accommodant fonctionnaire, soit qu'il eût déjà eu la peste ou qu'il la craignît moins qu'il n'aimait les demi-ducats, fit signe à Renzo de lui jeter sa pièce et, l'ayant vu voler à l'instant à ses pieds, il lui dit à mi-voix « Passe vite !» Renzo ne se le fit pas dire deux fois. Il passa la palissade, il passa la porte, il avança sans que personne s'en aperçût ou parût s'occuper de lui, si ce n'est que, lorsqu'il eut fait environ 40 pas, il entendit un autre « Hola !» que lui criait un agent des gabelles. Cette fois, il fit semblant de ne pas entendre, et, sans même se retourner, il allongea le pas. « Hola !» cria de nouveau le gabelou, mais d'une voix qui indiquait plus d'humeur que d'intention bien décidée de se faire obéir. Et voyant qu'en effet, on ne lui obéissait point, il haussa les épaules et s'en retourna vers sa baraque, comme un homme à qui il importait davantage de ne pas trop s'approcher des passants que de s'enquérir de leurs affaires. La rue que Renzo venait de prendre allait droit, alors comme à présent, jusqu'au canal dit Il Naviglio. Sur les côtés étaient des haies ou des murailles de jardins, des églises, des couvents et peu de maisons. Au bout de cette rue et dans le milieu de celle qui longe le canal s'élevait une colonne surmontée d'une croix, dite la croix de Sainte Eusebio, et, avec quelque attention que Renzo regarda devant lui, il ne voyait que cette croix. Arrivé au carrefour qui se trouve à peu près à la moitié de cette rue, il jeta les yeux des deux côtés et vit, à droite, dans la rue transversale qui porte le nom de Stradone di Santa Teresa, un bourgeois qui venait vers lui. « Enfin, voici un chrétien !» dit-il en lui-même, et il tourna aussitôt par là, avec l'intention de se faire indiquer son chemin par ce passant. Celui-ci avait également vu l'étranger qui s'avançait, et il l'examinait de loin, d'un regard inquiet, qui le devint bien plus encore, lorsqu'il s'aperçut que l'étranger, au lieu d'aller à ses affaires, venait à lui. Renzo, lorsqu'il fut à peu de distance, ôta son chapeau, en montagnard poli qu'il était, et, le tenant de la main gauche, il mit l'autre main dans la coiffe et alla plus directement vers l'inconnu. Mais celui-ci, avec des yeux cette fois tout effarés, fit un pas en arrière, leva un bâton noueux, garni au bout d'une pointe en fer, et la présentant vers Renzo, il cria « Passez, passez, passez !»« Oh oh !» cria le jeune homme à son tour. Il remit son chapeau sur sa tête et, ayant toute autre envie, comme il le dit plus tard lui-même en racontant le fait, que d'engager dans ce moment-là une querelle, il tourna le dos à cet extravagant et continua son chemin, ou, pour mieux dire, celui dans lequel il se trouvait. Le bourgeois poursuivit également le sien, tout frémissant, et se tournant à chaque minute pour regarder en arrière. Arrivé chez lui, il raconta comment il avait fait rencontre d'un untore qui s'était approché de lui d'un air humble et patelin, mais avec une mine d'infâme imposteur, et comment cet homme, ayant à la main sa petite boîte d'onguent ou son petit cornet de poudre, il ne pouvait pas dire au juste lequel des deux, et cachant cette main dans son chapeau, allait lui jouer le tour s'il n'eût su le tenir à distance. S'il m'eût approché d'un pas de plus, je l'enfilais bel et bien avant qu'il eût le temps de faire son coup, le scélérat. Le malheur de la chose a été que nous nous soyons trouvés dans un endroit si solitaire, car si c'eût été au milieu de Milan, j'appelais du monde et me faisais aider à l'empoigner, et bien certainement on lui aurait trouvé cette abominable drogue dans son chapeau. Mais là, seul avec lui, j'ai dû me contenter de lui faire peur et de ne pas risquer de m'attirer quelque fâcheux événement. Car un peu de poudre est si vite jetée, et ces gens sont d'une adresse toute particulière. D'ailleurs, Ils ont le diable pour eux. Dans ce moment, sans doute, il parcourt Milan. Qui sait tout le mal qu'il y fait ? Et tant que cet homme vécut, c'est-à-dire pendant bien des années, il répétait, chaque fois qu'on parlait des Untori, son effrayante histoire, et ajoutait « Que ceux qui soutiennent encore que ce n'est point vrai ne viennent pas me conter à moi pareille sottise, parce que celui qui a vu en sait plus que personne. » Renzo, fort loin de se douter qu'il venait de l'échapper belle, et plus ému de colère que de peur, pensait, en marchant, à cet accueil si étrange, et soupçonnait bien à peu près l'idée que le bourgeois s'était faite de lui. Mais en y réfléchissant mieux, la chose lui parut trop déraisonnable, et il conclut en lui-même que cet homme devrait être à moitié fou. « Cela commence mal, se disait-il cependant. On dirait qu'il y a un sort pour moi dans ce Milan. Pour entrer, tout me favorise, et puis, quand je suis dedans, les déplaisirs sont là tout près qui m'attendent. Enfin, avec l'aide de Dieu, si je trouve, si je parviens à trouver, tout le reste ne sert à rien. » Arrivé au pont, il tourna sans hésiter à gauche, dans la rue de San Marco, jugeant avec raison qu'elle devait le conduire vers l'intérieur de la ville. Et tout en avançant, il cherchait partout des yeux pour voir s'il ne découvrirait pas quelque créature humaine. Mais il n'en vit point d'autre qu'un cadavre défiguré dans le petit fossé qui, sur une certaine longueur, sépare le sol de la rue du peu de maisons qui se trouvent là et qui, alors, étaient encore moins nombreuses. Comme il venait de passer ce bout de chemin, il entendit crier « Eh, l'homme !» Et regardant du côté d'où venait la voix, il vit à peu de distance, sur le balcon d'une petite maison isolée et au milieu d'une nichée de petits enfants, une pauvre femme qui, continuant d'appeler, lui faisait signe de la main de venir à elle. Il y courut. « Bon jeune homme, dit la femme, lorsqu'il fut près de la maison, au nom de vos parents défunts, ayez la charité d'aller avertir le commissaire que nous sommes oubliés ici. On nous a renfermés dans la maison comme suspects, parce que mon pauvre mari est mort. On a cloué la porte comme vous voyez, et depuis hier matin, personne n'est venu nous apporter à manger. Depuis tant d'heures que nous sommes ici en observation, pas un chrétien n'a passé à qui je puisse demander cette grâce, et ces pauvres innocents meurent de faim. » « De faim ? » s'écria Renzo, et, mettant aussitôt les mains dans ses poches, « Voici, voici, » dit-il en en tirant les deux pains. « Descendez-moi quelque chose où je puisse les mettre. » « Dieu vous en récompense, » dit la femme, « attendez un instant. » Et elle alla chercher un panier et une corde avec laquelle elle le lui descendit. Renzo se souvint en ce moment de ces pains qu'il avait trouvés près de la croix de San Dionigi lors de sa première entrée à Milan, et il dit en lui-même « Voilà, c'est une restitution. Et valant peut-être mieux que si je les avais rendus à leur maître véritable, car ici, c'est vraiment une œuvre de miséricorde. » « Quant au commissaire dont vous parlez, chère femme, dit-il ensuite, en mettant les pains dans le panier, je ne puis vous servir parce que, à dire vrai, je suis étranger et tout à fait neuf dans ce pays. Cependant, si je rencontre quelqu'un qui soit un peu humain et à qui l'on puisse parler, je lui donnerai la commission. » La femme le pria de faire ainsi et lui dit le nom de la rue afin qu'il pût l'indiquer. « Vous aussi, reprit Renzo, vous pourriez, je pense, me rendre un service, un grand service, sans qu'il vous en coûte de la peine. » Je cherche la maison d'une grande famille de Milan, la famille... Pourriez-vous me dire où c'est ? Je sais bien qu'il y a une famille de ce nom, répondit la femme, mais en vérité, j'ignore où est sa demeure. En avançant de ce côté-là, vous trouverez sans doute quelqu'un qui pourra vous l'indiquer. Et souvenez-vous de lui parler aussi de nous. Soyez tranquille, dit Renzo, et il se remit à marcher. À chaque pas qu'il faisait, il entendait croître et s'approcher un bruit qu'il avait déjà remarqué Pendant qu'il était à parler avec cette femme, un bruit de roues, de chevaux, de sonnettes, et de temps en temps, de coups de fouet et de cris. Il regardait en avant, mais ne voyait rien. Arrivé au bout de la rue, et comme il se présentait sur la place de San Marco, la première chose qui là frappa ses regards fut un appareil composé de deux poutres debout, avec une corde et des espèces de poulies. Et il ne tarda pas à reconnaître, car c'était une chose alors familière à tous les yeux, l'abominable machine de la torture. Elle était dressée non seulement dans ce lieu, mais sur toutes les places, comme aussi dans les rues un peu spacieuses, afin que les délégués de chaque quartier investissent à cet égard d'un pouvoir pleinement discrétionnaire, puissent y faire appliquer immédiatement quiconque leur paraîtrait mériter punition. Comme par exemple les habitants séquestrés qui seraient sortis de leur maison, des employés subalternes qui n'auraient pas rempli leurs devoirs, ou toute autre personne dont le délit serait venu à leur connaissance. C'était un de ces remèdes extrêmes et inefficaces dont on était dans ce temps-là, et surtout dans des moments pareils, si prodigues. Pendant que Renzo regardait l'instrument de supplice, cherchant à deviner pourquoi il était dressé en cet endroit, il entendait toujours plus le bruit s'approcher. Et enfin, il vit déboucher en deçà du coin de l'église un homme qui agitait une sonnette. C'était un apparitore. Derrière lui parurent deux chevaux qui, allongeant le cou et faisant effort sur leurs jarrets, n'avançaient qu'à grand-peine. Puis un chariot qu'il traînait, chargé de morts. Et après celui-là, un autre semblable, puis un autre, et un autre encore. Çà et là, près des chevaux, marchaient des monatti qui les pressaient du fouet, de l'aiguillon et de leurs jurements. Ces cadavres étaient la plupart nus, quelques-uns mal couverts de chétives enveloppes, tous amoncelés et entassés les uns avec les autres, comme des couleuvres pelotonnées ensemble qui déroulent lentement leurs plis aux premières chaleurs du printemps. Comparaison trop juste en effet, car à chaque chaos, à chaque secousse, on voyait ces tristes masses trembler et varier le repoussant aspect de leur désordre. On voyait des têtes pendre, des chevelures virginales se renverser, des bras se dégager et battre sur les roues. Et l'âme déjà saisie d'horreur à ce spectacle apprenait comment il pouvait devenir plus lamentable encore et d'une plus hideuse déformité. Notre jeune homme s'était arrêté au coin de la place, près du garde-fou du canal, et il priait pour ses morts qu'il ne connaissait pas. Dans ce moment, une affreuse pensée s'offrit à son esprit. Peut-être là, mêlé parmi les autres, là-dessous. Oh mon Dieu, faites que ce ne soit pas, faites que cette idée ne me gagne point. Lorsque le funèbre convoi eut achevé de passer, Renzo se remit en marche. Il traversa la place en prenant son chemin le long du canal à gauche, sans autre raison dans ce choix, sinon que le convoi avait passé de l'autre côté. Après les quatre pas qu'il avait à faire des murs latéraux de l'église au canal, il vit à droite le pont Marcellino. Il s'y dirigea et aboutit dans la rue de Borgo Nuovo. Regardant en avant, toujours dans l'intention de trouver quelqu'un qui put lui fournir le renseignement dont il avait besoin, il vit à l'autre bout de la rue un prêtre en pourpoint, avec un petit bâton à la main, se tenant debout, près d'une porte entr'ouverte, la tête baissée et l'oreille contre l'ouverture. Et peu après, il le vit lever la main et bénir. Il jugea, comme c'était la vérité, que cet ecclésiastique finissait de confesser quelqu'un, et il se dit « Voici l'homme qu'il me faut. Si un prêtre, en fonction de prêtre, n'a pas un peu de charité, un peu de bienveillance et de bonne manière pour qui s'adresse à lui, il faut dire qu'il n'y en a plus dans ce monde. » Cependant, le prêtre, s'étant éloigné de la porte, venait du côté de Renzo, en tenant avec grande précaution le milieu de la rue. Renzo, lorsqu'il fut près de lui, ôta son chapeau et en même temps il s'arrêta pour lui faire comprendre qu'il désirait lui parler, mais qu'il ne voulait pas l'approcher trop indiscrètement. L'ecclésiastique s'arrêta de même, se montrant prêt à l'écouter, mais en appuyant toutefois le bout de son bâton à terre, comme pour s'en faire un rempart. Renzo exposa sa demande, à laquelle le prêtre satisfit, non seulement en lui disant le nom de la rue où était la maison qu'il cherchait, mais encore en lui traçant son itinéraire, selon le besoin qu'il vit que le pauvre jeune homme en avait, c'est-à-dire en lui indiquant, à force de détours à droite et à gauche, de croix et d'églises, les 6 ou 8 rues qu'il avait encore à parcourir pour arriver à cette maison. « Que Dieu vous maintienne en santé, au temps où nous sommes, et toujours !» dit Renzo. Et comme l'ecclésiastique se disposait à s'éloigner, « Encore une grâce !» lui dit le jeune homme, et lui parla de la pauvre femme oubliée. Le bon prêtre le remercia lui-même de lui avoir fourni l'occasion d'une œuvre de charité si nécessaire. Et, en lui disant qu'il allait avertir qui de droit, il le quitta. Renzo, de son côté, se remit de nouveau en marche, et il cherchait, en cheminant, à repasser sa leçon d'itinéraire pour n'avoir pas à répéter sa demande à chaque coin de rue. Mais vous ne sauriez vous figurer combien cette opération lui était pénible. Non pas autant pour la difficulté de la chose en elle-même qu'à cause d'un nouveau trouble qui venait de s'emparer de son âme. Ce nom de la rue, cette indication du chemin qu'il devait suivre, l'avait bouleversé. C'était le renseignement qu'il avait désiré, demandé, dont il ne pouvait se passer, et on ne lui avait rien dit où il put voir aucun mauvais présage. Mais que voulez-vous? Cette idée un peu plus précise d'un terme prochain, où il sortirait d'une grande incertitude, où il pourrait s'entendre dire « elle est en vie » ou bien « elle est morte », cette idée venait de lui causer un saisissement tel que dans ce moment il eût mieux aimé se trouver encore dans sa pleine ignorance, être au commencement du voyage dont il était prêt d'atteindre la fin. Il rappela cependant ses esprits et se dit à lui-même « Hé là, si nous allons commencer à faire l'enfant, comment cela ira-t-il » S'étant ainsi remis le mieux qu'il lui fut possible, il poursuivit son chemin en s'enfonçant dans l'intérieur de la ville. Quelle ville, et qu'était-ce auprès de son état actuel, que celui où elle s'était trouvée l'année d'auparavant par l'effet de la famine? Renzo avait précisément à traverser l'un des quartiers que le fléau avait le plus horriblement désolé. Je veux dire ces rues formant à leur rencontre le carrefour qu'on appelait le Carrobio de la Porte-Neuve. Il y avait alors une croix dans le milieu, et en face, à côté de l'emplacement où est aujourd'hui l'église de San Francesco di Paolo, une ancienne église sous le titre de Santa Anastasia. Telle avait été la violence de la contagion dans ce quartier, et telle aussi l'infection des cadavres laissés sur place, que le peu de personnes qui vivaient encore avaient été obligées de vider les lieux. De sorte que si le passant y était tristement frappé de cet abandon et de cette solitude dont toute une masse d'habitations présentait l'aspect, il avait en même temps à subir l'horreur et le dégoût qu'inspiraient les restes laissés par la population qui les avait occupés. Renzo hâta le pas, en se ranimant par la pensée que le but vers lequel il marchait ne devait pas être encore si proche, et par l'espérance qu'avant d'y être parvenu, il trouverait la scène changée, du moins en partie. Et en effet, il ne tarda pas d'arriver dans un lieu qui pouvait s'appeler une ville d'êtres vivants. Mais quelle ville encore, et quels êtres! Toutes les portes étaient fermées par crainte et par méfiance. Ou si l'on en voyait d'ouvertes, c'était celle des maisons restées vides d'habitants ou envahies par les malfaiteurs. De ces portes, plusieurs étaient clouées et un sceau y était apposé, parce que, dans les maisons auxquelles elles appartenaient, se trouvaient des personnes mortes ou malades de la peste. D'autres étaient marquées d'une croix au charbon, pour indiquer aux Monatti qu'il y avait là des morts à enlever. Le tout fait assez à l'aventure, et selon qu'il s'était trouvé ici plutôt que là, quelque commissaire de la santé ou quelque autre agent qui avait voulu exécuter les ordres donnés ou exercer une vexation. On ne voyait partout que des linges déchirés et souillés, de la paille infectée, des draps jetés par les fenêtres, quelquefois des cadavres, soit que ce fussent ceux de personnes mortes dans la rue et laissées là en attendant qu'un chariot passât pour les ramasser, soit qu'ils fussent tombés des chariots mêmes ou qu'on les eût jetés aussi par les fenêtres, comme toute autre chose dont on avait voulu débarrasser sa demeure, tant la persistance du désastre et ses effets de plus en plus cruels avaient porté les âmes vers les instincts sauvages et vers l'oubli de toute pieuse solitude, de tout ce que l'homme respecte en état de société. On n'entendait plus nulle part ni bruit de travaux ou de négoces journaliers, ni roulement de voitures, ni aucun cri de vendeur, ni aucun propos de personne circulant dans les rues. Et il était bien rare que ce silence de mort fût interrompu autrement que par les chars funèbres à leur passage, les lamentations des nécessiteux, les gémissements des malades, les hurlements des frénétiques et les cris des Monatti. Au point du jour, à midi et le soir, une cloche de la cathédrale donnait le signal de certaines prières que l'archevêque avait ordonné de réciter. À cette cloche répondait celle des autres églises, et l'on voyait alors chacun se mettre à la fenêtre pour prier en commun. On entendait un murmure de voix et de plaintes dans lesquelles, à travers la tristesse, se faisait sentir une sorte de soulagement et une sorte d'espérance. Les deux tiers environ des habitants étaient morts. Sur ce qui restait, un grand nombre étaient malades. Un grand nombre avait quitté la ville. Il ne venait presque plus personne du dehors. Parmi le peu d'individus que l'on rencontrait, on aurait pu en trouver un seul qui ne parut quelque chose d'étrange, ou qui suffisait pour donner l'idée d'un triste changement dans toutes les habitudes. On voyait les hommes des classes les plus distinguées aller sans cape ni manteau, partie très essentielle alors de tout habillement honnête, les prêtres sans soutane, des religieux même en pourpoint, tous, en un mot, dépouillés de ce qui, dans leurs vêtements, aurait pu, en flottant, toucher à quelque chose, ou, ce que l'on redoutait plus que tout le reste, prêter aux untori quelque facilité pour leurs mauvais coups. Mais à part cette attention que l'on mettait à n'avoir que des habits aussi rapprochés du corps que c'était possible, chacun était négligé dans sa mise et dans son ajustement. Ceux qui de coutume portaient la barbe longue l'avaient plus longue encore. Ceux qui d'ordinaire la rasaient l'avaient laissée croître. Tous avaient des cheveux longs et en désordre, non seulement par l'insouciance qui naît d'un long abattement, mais parce que les barbiers étaient devenus suspects, depuis que l'on avait saisi et condamné, comme fameux untore, l'un des hommes de cette profession, Gian Giacomo Mora, nom qui, pendant longtemps, a conservé une célébrité locale d'infamie et qui en mériterait une bien plus étendue et plus durable de pitié. L'on ne voyait guère de gens qui n'eussent dans une main un bâton, quelquefois même un pistolet, comme avertissement et signe de menace pour qui eût voulu les approcher de trop près, tandis que dans l'autre main, ils tenaient, les uns des pastilles odorantes, les autres des boules de métal ou de bois creuses et percées à jour, dans lesquelles on mettait des éponges imbibées de vinaigre préparé. Et ils les portaient de temps en temps à leur nez ou les y tenaient constamment. Quelques-uns suspendaient à leur cou un petit flacon contenant de l'argent vif, persuadé que cette substance avait la vertu d'absorber et de retenir toute émanation pestilentielle, et ils avaient soin de le renouveler au bout de tel nombre de jours. Les gentilshommes, bien loin de paraître avec leur cortège accoutumé, allaient, un panier sous le bras, se pourvoir eux-mêmes des choses nécessaires à la vie. S'il arrivait que deux amis se rencontrassent dans la rue, ils se faisaient de loin et à la hâte un salut silencieux. Chacun, en marchant, s'étudiait, non sans beaucoup de peine, à éviter les objets dégoûtants et imprégnés de peste qui étaient épars sur le sol ou qui même, en quelques endroits, le couvraient entièrement. Chacun cherchait à tenir le milieu de la rue, dans l'appréhension d'autres saletés, si ce n'était pis encore, qui pouvaient tomber des fenêtres, des poudres vénéneuses que l'on disait être jetées de là-haut sur les passants, des murailles enfin qui pouvaient être ointes. C'est ainsi que l'ignorance, successivement courageuse et timide, à rebours de la raison, ajoutait maintenant des peines à d'autres peines et donnait de fausses terreurs en compensation des craintes raisonnables et salutaires qu'elle avait, dans le principe, fait repousser. Telles étaient, parmi les personnes qui se montraient hors de leur demeure, les habitudes actuelles et les allures de celles qui, en santé et dans l'aisance, fournissaient le moins à ce que le tableau de la population présentait de lamentable et de hideux. Car, après tant d'images de misère, et en pensant aux misères plus affligeantes encore, au milieu desquelles nous aurons à conduire le lecteur, nous ne nous arrêterons pas en ce moment à dire ce qu'était l'aspect des pestiférés qui se traînaient ou gisaient dans les rues, des indigents, des femmes, des enfants. Il était tel que celui qui arrêtait ses regards sur tant de souffrances pouvait trouver une sorte de soulagement né du désespoir même, dans ce qui maintenant, à la distance qui nous sépare, se présente à nous comme le comble des maux. Je veux dire dans la pensée et la vue du petit nombre auquel les vivants étaient réduits.